Anne de la Flotte, Medivy, bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut préciser qu'on se connaît puisqu'on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Hein, on s'était rencontrés pour ton premier roman, La relieuse du gué. On s'est revus plusieurs fois entre-temps, voilà, notamment parce que tu as publié un autre roman qui s'appelait Fugue. On avait pu faire un entretien à l'époque. Je rappelle aussi que tu as vécu une vingaine d'années à Prague. Entre-temps, tu as déménagé en France. Tu as publié aussi d'autres ouvrages. Le dernier s'appelle Le Théâtre de Slavek, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Mais je disais justement, tu as vécu une vingaine d'années à Prague et j'étais toujours étonnée, enfin j'étais étonnée. Je me dis, tu as attendu le sixième ouvrage pour écrire un roman qui se passe en Bohême.
Il n'y a pas de raison, La relieuse du gué qui se passait en France, je l'ai écrite à Prague. Donc j'ai fait le chemin inverse. Peut-être il faut être un petit peu loin comme ça. Une petite mise à distance, c'est pas mal pour revenir quelque part en fait.
Alors je disais donc Le Théâtre de Slavek, hein, qui est publié aux éditions Gaïa, qui est sorti il y a quelque temps déjà, et dont une traduction tchèque est en préparation à l'heure actuelle, se passe en Bohême, mais ce n'est pas la Bohême que tu as connue, celle des années 90, ça se passe au XVIIIe siècle. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler le sujet, comment tu es arrivé à trouver ce personnage Slavek dont on pourra parler un petit peu plus après?
Mais c'est complètement en lien avec ta première question, c'est-à-dire que depuis que j'étais rentrée en France, j'avais envie en fait de revenir à Prague, mais de pas y revenir à l'époque contemporaine. J'avais envie d'aller à la source de, ça fait très présomptueux comme ça, mais de cette identité tchèque qui m'avait toujours semblé un petit peu problématique, on va dire ça comme ça, douloureuse. Et j'avais envie, oui, au fond, c'était domestiquer l'histoire de ce pays où mes enfants sont nés, où j'ai vécu 20 ans. Il me semblait qu'il y avait des tas de choses que je n'avais pas comprises, et notamment sur quoi reposait cette identité tchèque que j'avais toujours sentie, j'allais dire schizophrénique, c'est vraiment pas gentil, mais mal à l'aise. Mal à l'aise. Et je me rappelais de ces commentaires de certains Pragois qui me disaient que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, si je me souviens bien, le dimanche après-midi sur Napsikopie, Naronitschida Napsikopie, en bas de Vassavskenamiesti, vous aviez d'un côté la bourgeoisie juive germanophone ou germanophone tout court, je ne sais pas si c'est exclusivement juive, mais je crois que on avait ajouté cet adjectif à l'époque, et côté Naronitschida, il y avait la bourgeoisie tchèque qui se promenait. Et je m'étais dit, waouh, donc c'est un peu comme l'aigle à deux têtes de l'Empire, non? Là, il y a quelque chose. Il y a un problème. Et il me
Deux
semblait que
communautés
c'était.
qui vivent parallèlement, en
Oui,
fait.
alors bienvenue en Europe centrale. Hein. Donc là, il n'y a pas de surprise, en fait. Oui, je suis en Europe centrale, donc je suis sur une terre de carrefour d'identité. Donc là-dessus, il n'y a pas grande surprise. Mais tout de même, j'avais envie d'aller à la source de cette identité tchèque. Donc la légendaire, l'historique, essayer de faire la part des choses dans tout ça.
Et donc la Prague baroque
Alors,
était idéale pour
oui.
aller aux sources.
Bah aussi parce que le 18e, c'est le 18e, c'est un carrefour, on va dire, pour employer l'image, entre le 17e, qui est le siècle des grands déchirements et des guerres de religion, de la contre-réforme, et de l'écrasement de cette, là aussi, de quelque chose qui va puiser à la source de l'identité tchèque, c'est-à-dire l'épopée de Hus. Et puis le 19e siècle, où post-révolution française, où l'idée de nation tchèque, de la nation moderne tchèque, va se mettre en place. Le 18e, c'est le pont.
En quelques mots, est-ce que tu pourrais résumer qui est ce fameux Slavek?
C'est un Pragois. Il naît au cœur de Prague en 1707. Ses parents, sa mère est fille d'ouvrier boulanger. Et son père est un maître d'ouvrage. Il travaille à cette espèce de la renaissance de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, de la ville baroque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est un enfant heureux, aimé de ses parents. Et il en est très conscient depuis toujours, c'est sa force, hein. Heureux, sauf que la peste, 1714, 1713, 1714, la dernière vague de peste à Prague, sauf qu'il va être la victime d'un accident.
Et alors c'est un accident fatal, pas totalement en fait, puisqu'il rencontre finalement, c'est un personnage providentiel à tous les sens du terme,
oui,
hein,
c'est
puisque
étrange.
voilà, qui est le comte Spork. Alors,
Ouais.
pour les personnes qui ne sauraient pas qui est le comte Spork, est-ce que tu pourrais un petit peu rappeler quel était ce personnage qui a existé? Là, pour le coup, c'est un vrai personnage
Ouais,
historique que
ouais.
tu fais rencontrer de manière, en effet, tragique à ton personnage.
Mais le comte Spork, c'est un des c'est un comte puissant, riche, mécène. C'est un homme du XVIIIe siècle, qui est à la fois un peu mégalo, qui a à la fois une mentalité de bourgeois. Et c'est ce qui m'a plu chez ce personnage, c'est son ambiguïté, c'est son côté résistant à la provocation, résistant. Il va avoir des problèmes avec les jésuites et il va se battre pied à pied tout en étant catholique et très pieux, et authentiquement pieux. C'est un personnage ambigu à souhait. C'est tout ce que j'avais, ce dont j'avais besoin. C'est tout ce dont j'avais besoin. Un personnage à la fois ambitieux, mécène, philosophe, profondément pieux, bon mari, fidèle, bon père, aimant. Voilà, il y a tout chez lui. C'est un catalogue des qualités, des défauts humains. Et ce personnage m'a plu. J'avais très peur que cette figure du riche aristocrate germanophone soit parfaitement manichéenne. Et je me disais, il va falloir que j'invente un aristocrate riche, vraiment un caractère romanesque, etc. J'ai pas eu besoin,
Il existait.
je suis tombée sur Spork. Et je voulais que ce soit cet homme-là qui percute le destin de Slavek
Au
et le
sens
corps de
propre, au
Slavek
sens propre
et
du terme.
qui coupe en deux mon personnage principal, oui.
Oui, parce qu'en fait, il est renversé donc par la calèche de ce comte. Il perd l'usage de ses jambes, donc son destin, enfin voilà, est complètement chamboulé. Sa vie est complètement chamboulée par cet événement. Sauf que ce comte finalement va pourvoir à son éducation et plus tard donc l'employer dans son théâtre hein, en
Oui.
tant que maître de la lumière. Hein.
Oui. Bon, il ne lui dit pas le maître de la lumière, il va s'occuper d'alimenter les lustres en bougies et il va prendre sa place là. Je dois dire que Slavek aurait de toute façon reçu une éducation tout à fait décente et tout à fait solide parce qu'il faisait partie de cette petite bourgeoisie d'artisans pragois. Mais Spork va lui permettre une chose merveilleuse qui va être un des grands bonheurs de Slavek, c'est d'avoir un tuteur, un précepteur qui va venir lui donner des cours à la maison, qui va venir lui donner cet enseignement à la maison. Donc le père František est un beau personnage aussi que j'aime beaucoup et qui va être décisif dans le destin de Slavek, dans la vie de Slavek, dans sa formation.
Ton roman est inscrit donc dans ce 18e siècle, dans cette Prague en fait qui a vu Casanova, qui a vu Mozart. Slavek, au soir de sa vie, se souvient, se rappelle de ses années de jeunesse et qui raconte en fait son histoire. C'est assez étrange parce que en fait en le lisant, j'avais cette scène du film de Miloš Forman, Amadeus,
Ah
où Salieri se rappelle
oui.
de son
Oui,
histoire. Hein.
bon, c'est très classique, hein. Là-dessus, j'ai pas inventé grand-chose. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, je revois très bien les images du film maintenant. Voilà, mais en même temps, quoi de plus naturel que pour une personne, une femme ou un homme au fin de sa vie, confiné par l'âge et la maladie, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que de faire revivre ce qu'on a aimé?
À travers l'histoire de Slavek, c'est en fait alors à la fois l'histoire de Prague et l'histoire de la bohème hein, du XVIIIe
Oui.
siècle que tu fais intervenir. Comme tu le disais un peu au début, hein, c'est une bohème qui est quand même encore déchirée hein, puisqu'il y a eu tous ces conflits religieux. Et puis
Visiblement.
il y a la guerre de 7 ans qui intervient.
Oui, la guerre de succession.
Voilà.
Oui. On suit pas à pas, Slavek nous la raconte, nous raconte ce siècle, on traverse le siècle avec lui. Et évidemment que moi, au départ, encore une fois, c'était le but. J'espère que le personnage de Slavek est suffisamment attachant humainement pour faire oublier que c'est quand même un roman qui veut visiter l'histoire.
Et puis, il y a l'opéra aussi qui est au cœur de ce livre,
Oui, puisqu'il
le
va
théâtre.
travailler il va travailler dans ce théâtre, d'abord dans le théâtre de Spork, qui était un théâtre multicarte. On y jouait un peu de tout. Et puis à partir de 1724, je crois, Spork va offrir son théâtre à un impresario italien, D'Annunzio, un vénitien, un excellent musicien, excellent chanteur, un couteau suisse de l'opéra, je ne sais pas comment. s'appelait. Et ce Denzio va animer le théâtre de Spork jusqu'en 1731-32, je crois. Et c'est là que Slavek va officier et va faire la lumière.
Et comme tout à l'heure, tu parlais de cette scission entre le peuple tchèque et le peuple allemand, hein, tu rappelles également, on le voit dans le roman, comme il existe à partir d'un certain moment deux théâtres, un théâtre en langue tchèque, un théâtre en langue allemande aussi. Est-ce que tu pourrais un peu rappeler cette histoire pour justement, parce que c'est peut-être pas forcément connu, en tout cas des francophones.
Alors ça, c'est la fin du roman, et c'est la fin de la vie de Slavek, qui est bien heureux de d'être encore vivant pour témoigner de ça et assister à cela, c'est-à-dire à la création d'un théâtre tchèque où la langue tchèque a son mot à dire. Ce dont je me rappelle, c'est que la troupe, donc le Stavovské divadlo qui vient d'ouvrir, il va y avoir une dissension, des accros entre ceux qui, au sein de la troupe, voudraient pouvoir donner la parole à un théâtre tchèque, et ceux qui, les réacs, qui vont dire « Non, non, du tchèque sur une langue de théâtre. Enfin, » vous rigolez, non ? C'est l'allemand, on dit l'allemand ou on chante l'italien. Mais enfin, tout le reste, c'est ridicule. Et il va y avoir une scission de la troupe du Stavovské divadlo, et c'est pour ça que le théâtre de la Bouda va se créer en bas de Vasavské náměstí.
Aujourd'hui, il n'existe plus.
Il n'existe plus, mais un théâtre où le tchèque aura droit de citer.
Ça préfigure en fait finalement le réveil des nationalités au 19e.
Complètement, exactement. C'est pour ça que bon, ça m'a semblé judicieux de terminer là, parce que voilà, le tchèque a gagné le droit d'exister publiquement. Et donc après, la nation va se constituer autour de, pas seulement autour de ça bien sûr, mais autour quand même de ce fait linguistique et autour du théâtre.
Un petit peu pour terminer, il faut dire qu'on est à Coux hein, pour cet entretien. Alors Coux, c'est un endroit incroyable qui est né en fait de l'esprit de ce fameux comte Spork. Et en effet, Coux intervient à un moment donné dans ton roman. Est-ce que tu peux un petit peu dire ce que c'était ? C'était en fait, c'était un rêve en fait que ce comte a créé de toutes pièces au milieu de nulle part.
Oui, alors au XVIIIe siècle, les bains, les thermes sont à la mode. Spork avait très très envie que, à côté de ces terres de Lysana de la Bème, il y avait des sources là, autour de l'Elbe, et il avait bien envie que ces sources soient curatives, parce que ça lui donnait l'occasion de créer une cité idéale, thermale, autour de ces sources. Et donc il a fait analyser l'eau de ces sources, et par quatre docteurs, des gens très très savants à Prague, et ben c'était formidable puisque les résultats ont montré que ces eaux, en fait, réelles, étaient bien curatives, étaient bien très très bénéfiques, et donc il a pu y aller, il y allait, comme on dit chez nous en Bourgogne, excusez-moi l'expression, les quatre pattes à la fois, et il a créé cette cité thermale, une cité idéale. Où il y avait tout pour. Il y avait une bibliothèque, un théâtre, il y avait un hôpital, et même pour quand tout est fini ou presque, le cimetière. Enfin, il y avait tout dans cette ville. Une cité rêvée, une cité parfaite.
Et où il a attiré des architectes, des sculpteurs.
Brown, le merveilleux Brown, a pu laisser libre cours à son génie. Et Spork avait cette intelligence de laisser les artistes s'exprimer, de leur offrir cette possibilité. Il n'était pas le seul, évidemment, mais lui l'a fait en leur accordant toute la liberté possible. Et donc Brown s'est exprimé là à Coux très très bien. Spork a rêvé une cité idéale, et il se trouve que le seul autre ailleurs de Slavek, puisque Slavek est pragois, ne quittera jamais sa ville, seulement à deux occasions, et c'est pour se rendre à cette cité rêvée, à cette cité idéale de Coux. Et vite ensuite, il rentre à Prague.